bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
La bande originale sur France Inter, c'est un autre spectacle et c'est maintenant.
C'est un autre. J'aime bien ce lancement.
Tout compris.
C'est un autre spectacle. Vous ne pouvez pas. Ces gens, on peut même rajouter, vous ne pouvez pas comprendre. C'est autre chose, quoi, cette émission. Enfin, à midi quoi.
Je m'avance pas, quoi. Je dis ça comme ça.
Midi et des bananes.
Le retour. Non, à midi pile. Hier, on était pile. Je suis désolé, mais pas la pression. À midi pile, le retour de Laetitia Gaillé pour vous informer à tout à l'heure. Let's.
Ouais, pile.
La bande originale avec Léla Kadobounadi, Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour,
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure et nos invités Sandrine Bonnet et Pablo Pauli.
Bravo.
On est ravis de vous accueillir pour... Bonjour déjà.
Bonjour.
Première
bonjour.
Chose. Pour ce film qui est dingue, 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 tellement il est bon. Pour reprendre la phrase de... c'était Spielberg dans une conférence de presse. On lui disait maître ou je sais pas, ou monsieur Spielberg, comment faire pour faire un bon film? Il avait dit prenez une bonne histoire, prenez des bons comédiens, prenez un bon réalisateur et... Vous pourrez peut-être faire un bon film. Et ben là, on a un bon film avec une histoire de dingue dont nous recevrons d'ailleurs l'auteur tout à l'heure.
Qui lui aussi est dingue.
Ah oui, pour écrire un truc comme ça, moi je me méfierais d'ailleurs, je pense qu'il sera de l'autre côté.
Non, mais c'est un auteur dingue déjà, c'est un superbe auteur, Pierre Lemaître. Ce bouquin, Trois jours et une vie, déjà, ça avait été un choc à lire. Et on se dit, oh là là, adapter un tel bouquin... C'est compliqué et en fait c'est réussi mais de folie et la barre était très très haute. C'est toujours ce qui est compliqué avec les adaptations de très bons bouquins en fait.
Sauf que c'est lui qui l'a fait l'adaptation, je pense. En
avec une scénariste qui s'appelle Perrine, je ne sais plus quoi.
Marianne,
merci beaucoup. Ils ont vraiment bien bossé.
Si tu prends la parole, il faut savoir ce que tu veux dire.
Non,
sinon ici tu te fais tuer.
Avec ma petite Perrine. Perrinou.
Et donc. Donc, Sandrine Bonnet, Pablo Pauli, Charles Berling, Philippe Torton, Margot Blancillon, qu'on a vu dans Five, si
ma mémoire est bonne.
Entre autres, ouais. Pour cette réalisation de Nicolas Boukrieff avec une lumière dingue, une ambiance incroyable, des cadres, des halos de lumière. Enfin, c'est une œuvre.
C'est un thriller.
Un vrai bon film. Et puis alors, ouais, l'histoire est totalement folle. C'est le 18 septembre que ça sort, ce film. On va en parler, évidemment.
Dis donc, ce sera pas demain?
Ouais. Dans un dodo.
Dans un dodo, déjà.
C'est presque demain, le 18.
Vivement demain.
Ah oui.
Des questions concernant nos. Nos invités. Dans quel film culte du début des années 80, Sandrine Bonnet?
À nos amours.
A-t-elle fait de la figuration? T'as les trop vite.
Les Soudoués.
Allez, avant, il y en a deux.
Les Soudoués. Alors, Soudoués, oui.
Quai des Brumes.
Non.
La boum, je le redis.
Ok, alors
un point partout, un point
c'est
chacun.
C'est vous, Sophie Marceau.
Un point chacun.
C'est moi, oui. Vous m'avez pas reconnu.
De la figuration dans La Boum, j'ai presque envie de revoir
ça
le film pour
slow.
Voir où vous étiez. C'est quoi, vous dansiez?
Non, j'étais punie. J'étais plutôt dans les scènes de classe.
Et comment on se retrouve figurante enfant comme ça? C'est quelqu'un vous emmène sur le tournage?
C'est le père d'une copine qui s'occupait de figuration d'enfant. Et voilà, je me suis retrouvée là, non pas parce que j'avais envie de faire du cinéma, mais parce que je voulais gagner un peu de sous.
À propos d'enfants et de jeux d'enfants, on parlera également des enfants qui jouent dans Trois jours et une vie, parce que Pablo, vous êtes finalement présent la moitié du film, l'autre moitié, c'est un autre qui vous joue.
Ouais,
on va dire votre personnage. Pourquoi adolescent, le papa de Pablo Pauli l'envoie faire du théâtre?
Il parle
trop. S'occupe.
Ah non, il est trop timide, il est trop renfermé, il fait pipi au lit.
Non. Non, t'en sais trop.
Ça devient gênant.
Parce qu'il est prof de théâtre?
Parce qu'il adore aller au cinéma et il rêve d'être quelqu'un en particulier.
Non, non, son papa l'a obligé à aller au théâtre. Il a dit.
Il a un problème de diction.
Tu ne discutes pas, tu vas au théâtre.
Parce qu'il fallait qu'il fasse une activité. Il fallait qu'il fasse des amis.
Il voulait faire que du sport.
Pourquoi?
Parce que c'était chauffé.
En lettres, en français, pour l'aider en français, pour les textes. Comme ça, il pouvait être.
C'était pour la mémoire, l'apprentissage.
C'était pour l'aider, mais parce qu'il y avait un souci.
Le regard.
La timidité.
Non.
La voix.
Non. Non, non.
Je peux répondre ?
Non.
Non, sans doute que tu sais. Hein.
Mais vous pouvez me mimer la réponse.
Non, 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 parce qu'il y a des points, après il y a des primes, il y a des cadeaux.
On peut avoir un indice.
À la fin de l'année, on gagne.
Un indice. C'est une réaction d'un papa qui veut sortir son fils de l'embarras.
Parce qu'il bégayait,
il était rouge quand il parlait.
Non.
Bah parce qu'il draguait pas les filles, il fallait qu'il aille vers les
Quel
autres.
Quel rapport avec le théâtre, on sait bien que c'est un jeu.
Il avait du mal à apprendre la langue.
Sortir de l'embarras.
Ouais, ouais. Quel embarras. Ouais. Il lui dit, il faut que t'ailles prendre des cours de théâtre.
Te confronter, parler en public.
Tout
quoi.
Ça parce que...
Quelqu'un lui a dit...
Il voulait pas sortir de sa chambre.
Quelqu'un lui a dit qu'il était chose de dévalorisant.
Vous étiez bègue.
Il y a un truc, non, il y a un truc.
Il y a peu de ça.
Il y a un truc qui n'allait pas. C'est un peu la même raison.
Un cheveu sur la langue.
Daniel Pénac.
Il était un cancre.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
C'était très facile.
Mais non, pas du tout.
Non. Vous n'aviez
le mime du cancre.
Lu aucun livre de votre vie
non,
raconté à adolescent.
Je faisais semblant. Quand on avait des fiches de lecture à faire, je faisais semblant où j'allais voir ma sœur. Ce truc-là, inconnu à cette adresse, tu l'as lu. Bah oui, forcément, c'est en quatrième. Bah, tu me dis ce qui s'est passé. Et puis,
il y a pas un petit s'il te plaît. Il y a pas. Elle a dur. Hein.
Et votre père donc vous a obligé d'arrêter l'école pour faire du théâtre.
Ouais, après obligé.
Il s'est dit le système de l'école ne lui va pas.
On a essayé plusieurs écoles, toutes ont essayé avec moi, ça a pas fonctionné. À Paris et en dehors de Paris aussi parce qu'à un moment donné tu fais le tour. Et fallait arrêter quoi. Donc j'ai eu un peu peur au début, je leur en ai pas mal voulu parce qu'à 16 ans tu sais pas trop quoi faire. Et j'ai essayé ça et je tombe amoureux du jeu et puis c'est parti.
On parle souvent du talent de comédienne de Sandrine Bonnaire, mais certains réalisateurs aiment en plus chez elle quelque chose de particulier.
Son naturel, la cuisine. Son naturel, sa démarche, sa
cinégénité.
Exactement, la démarche.
Ah, la démarche.
La démarche. Et alors, pardon ? C'est Rivette, oui. Et votre dos ? Alors là, j'aimerais que vous expliquiez l'histoire du dos, si vous l'avez présente, ce que Jacques Rivette vous a dit. Vous vous souvenez pas ?
Bah, il disait que je me tenais. D'ailleurs, je vais me redresser.
Droite.
que je me tenais toujours droite. Et ça fait partie d'ailleurs de la proposition du rôle de Jeanne d'Arc. Il disait tu es à la fois une terrienne et puis tu tiens droite et t'as l'air solide et voilà. Donc du coup, j'ai pu obtenir ce merveilleux rôle.
Et on change de démarche en fonction du personnage, du rôle que l'on a. On cherche justement dans les artifices, dans les gestes, dans les comportements, si on doit être épaules refermées, ouvertes,
ouais,
penchées,
ça.
On réfléchit à ce genre de choses.
D'acteur, ouais. Ouais.
Physique.
Je me dis, il y a des personnages qui se tiennent droit, justement, d'autres pas, qui marchent vite, pas vite. Ouais, ça dépend de la couleur de
Et ça, c'est une proposition qu'une actrice fait ou c'est en fonction des desiderata du
Ça dépend. Ça peut être le désir d'une actrice, ça peut être en collaboration avec le metteur en scène. Ça dépend comment est le metteur en scène, s'il propose.
Là, par exemple, pour 3 jours et une vie, la maman que vous incarnez, qui vit seule, sans mari, mais avec des aventures, et qui sait ou pas, d'ailleurs, ce qui se passe dans la vie de son fils, ça reste un suspense tout long qu'on va évidemment pas dévoiler.
On joue comment, épaule droite ou épaule
ouais.
rentrée?
Non, mais parce que c'est vrai que
plutôt,
la tenue.
Plutôt droite, mais avec un point de.
Je
dirais de petites courbes quand ouais. même, parce que c'est une femme qui ne dit rien, ouais. on ne connaît rien de sa vie, son fils ne sait rien de sa vie.
Elle est courageuse, elle
ni le village, ni rien. Donc
elle part tôt le matin, elle rentre tôt le soir, elle est repliée sur elle-même.
Sur elle-même. Très discrète, très un peu catholique puisqu'elle a une petite croix. Donc une femme, on peut rien lui reprocher quoi. C'est une femme loyale, on va dire.
Qu'a dû faire Pablo Poli pour jouer dans le film Patient où il était génial, le film Encore Malade.
Il a payé.
Aller à l'hôpital.
Alors il a payé.
Il a perdu beaucoup
de sa personne.
Très faible.
Exactement. C'est pas beaucoup de poids, c'est 12 kilos en un mois, c'est carrément dangereux.
Non, c'était plus qu'un mois, mais après ça a été un peu extrapolé. Mais non, enfin c'est à faire pour ton rôle, c'est à faire comme le coup des épaules, de se tenir droit ou pas. T'es censé pas avoir de muscles, bah faut pas que t'en aies beaucoup quoi.
Donc comment on fait? Il y a beaucoup de gens qui à mon avis vont écouter votre recette. Comment perdre 12 kilos en un mois?
Faut pas manger.
Mais ça fait comment? Vous avez jeûné?
Vaut mieux être suivi, boire beaucoup d'eau et être faible. En fait, j'avais pas d'objectif de poids. Fallait juste que je sois faible. Ça aurait été mieux d'avoir un objectif de poids et tu fais ça, t'as un entraînement.
Parce que c'est un peu vague quand même, sois faible.
Bah ouais, c'est un peu vague, mais en même temps, c'était un peu l'idée, quoi.
Ouais.
Ouais, se retrouver comme une personne alitée qui ne qui n'a plus aucun muscle, qui est dans un état de faiblesse, quoi.
Ouais.
Ouais. Est-ce que ça, psychologiquement, mentalement aussi, ça joue? C'est-à-dire que ça, la faiblesse musculaire, ouais, du coup, a un impact aussi sur la mémoire, sur le jeu, sur l'attention que l'on peut prêter à des...
La mémoire, non, mais t'es faible, quoi. T'es faible, donc t'es un peu moins alerte.
Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on est faible aussi pour jouer, pour porter la voix, pour...
Ouais, forcément. Après, ouais, moi, je voulais être faible pour avoir une voix un petit peu... Comme le matin, quand on se lève, la voix est un petit peu spéciale.
Ouais.
Et je pense que si tu trouves ton corps, la voix suit, etc. Donc, fallait être faible physiquement, et après, tout le reste va suivre.
Ça, c'est une volonté de votre part, ou c'est Fabien Grand Corps Malade qui vous a dit il faut faire ça pour être dans le personnage?
Je pense qu'il voulait que je le joue. Moi, je voulais un peu être plus dedans que de le jouer, donc on s'est mis d'accord et c'est parti.
Carton, hein, en tout cas, bravo, hein, patient.
Ouais, ça va,
ah, ouais, vraiment, vraiment. Quelle activité Sandrine Bonner a-t-elle commencé?
La danse.
La pétanque.
Non, il n'y a pas longtemps.
La taxidermie.
Il n'y a pas longtemps.
Le yoga, la méditation.
La peinture.
Alors, on est plutôt dans le sport.
Le kung-fu.
Alors,
Pilates,
non, lancer de poids, lancer de javelot.
Tai chi,
le gyrotonique.
La lutte.
Le quoi?
C'est un vrai sport, gyrotonique.
Gyrotonique, ouais, Zumba, non.
Le kung-fu, le yoga.
Non, mais
la
boxe. Toi.
La Zumba.
Non,
c'est
la boxe.
C'est du combat,
c'est un sport individuel.
Ah,
tennis.
Exactement. Vous êtes mis entre guillemets au tennis, alors qu'on pourrait...
Non,
c'est pour toi, le point pour toi, aucun problème.
Ah, le tennis, c'est il y a quelques années. Non, j'ai même arrêté le tennis.
Ah, pardon,
vous avez des fausses informations.
Ouais, bah, écoutez, oui.
Non, je pensais que vous alliez dire...
Mon information date...
Parce que j'ai commencé un truc qui
s'appelle... Elle date d'il y a 2 ans, mon information. Donc,
Ah bah oui, bah déjà, elle est...
Alors elle est
balèze. Non, le tennis, c'était
avant.
Bien avant, ça fait 10 ans.
Ok.
Non, en revanche, j'ai...
Et pourquoi avez-vous arrêté, pardon? Vous manquiez de partenaires ou c'était...
Non, c'est pas ça, c'est pas que j'ai
truc.
Déménagé, je suis revenue à Paris, c'est aussi mal que ça.
Vous avez une raquette, ça prend pas beaucoup de place, hein, dans un
non,
carton.
Non, mais les cours de tennis, par contre, c'est galère à Paris.
Ah, il faut sortir, oui,
faut
de Paris.
Faut sortir, réserver des cours, c'est compliqué, il faut s'y prendre très en amont. Non, mais j'ai commencé, je pensais que vous alliez dire ça, le tissu aérien.
Ah ouais.
Alors, le tissu aérien, c'est l'équivalent du trapèze, mais c'est avec un tissu. Et j'ai installé ça chez moi, parce que j'ai 8 mètres de hauteur sous plafond.
Chic.
Et
c'est facile à chauffer.
Génial.
Pas facile
pour
à chauffer.
J'arrive pas
vous habitez dans une église.
Non, elle habite à l'Académie Fratelli. Et donc, elle fait du sien.
Le tissu.
D'accord. De quel auteur humoriste était issu le tissu, sans mauvais jeu de mots, évidemment, le premier texte que Pablo a joué sur scène?
Jean-Yann.
Des proches. Coluche.
Exactement, joli. Des proches. Premier texte sur scène des proches, et là, vous voyez votre capacité à faire rire. Et vous aimez ça.
Enfin, la capacité que des proches avaient fait de faire rire.
Moi,
j'ai pas fait grand-chose. C'était un texte issu d'un spectacle qui parlait de la mode. Et moi, j'avais pas les références, on devait avoir un texte. Mais j'étais un bon cancre encore à l'époque, en arrivant encore au théâtre à 16 ans.
On se refait pas.
Si, je t'assure qu'après on progresse.
Oui, bon. Non, pas lui.
Il fallait que je trouve un truc un peu rapide, quoi. Donc qu'est-ce que je connaissais par cœur? Mon père nous faisait écouter des spectacles de Pierre Desproges.
Génial.
Et donc je connaissais des choses par cœur, mais j'ai pas les références, pas mon époque du tout.
Donc en fait, tu comprenais pas les vannes?
Non, pas tout.
D'accord.
Il y a une vanne sur est-ce que tu crois que Ducrot il se décarcasse? C'est qui est une pub.
Ouais.
Que moi, j'ai jamais connu ça.
C'était pour des herbes sèches et c'était à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse?
Voilà. Bah là, il y a une vanne sur la mode et sur un jean avec Ducrot que je comprenais pas, que je faisais comme
alors
je faisais.
Comment la jouer? Comment la jouer si on comprend pas?
Bah, t'y crois. Non, vraiment, suffit d'y croire.
Tu reprends le ton de
Mais on n'est pas un peu surpris au premier rire? On dit merde. Ah. Là, faut
non, c'est des proches. Pourquoi les gens, c'est pas un manchot, quoi. T'es au courant que le mec il s'est fait rire.
Et le plaisir de faire rire. Alors ça, c'est une information que vous avez chopée justement sur scène.
Ouais,
vous retrouvez sur scène et entendre des rires, c'est un plaisir.
Ouais, de voir que parfois ils réfléchissaient, ils étaient un peu touchés. Moi, ça me procurait un truc incroyable. Je me regardais pas jouer. C'était un moment assez dingue pour moi. Ouais.
Et ça, c'est ce qu'on a au théâtre, pas au cinéma. C'est-à-dire que la réaction du public, on l'a que sur les planches. On l'a pas, évidemment.
Ouais, après, maintenant, c'est plus le plaisir de jouer que d'avoir une réaction en live.
Ça veut dire que le théâtre, c'est pas quelque chose que vous aimeriez refaire?
Si, bien sûr que si. Mais ça me fait un peu plus peur, en fait. D'avoir des gens devant moi, c'est un petit peu spécial pour moi.
Sans
cinéma, je peux être un peu plus dans mon délire.
Ouais. Votre ressenti, la différence qu'il y a entre jouer face à une caméra, une équipe technique, et de faire 2, 3, 4 prises d'une même scène, et être sur scène et n'avoir que le public et un jugement immédiat et une rumeur, un éclat de rire ou une émotion?
Alors on dit que le cinéma est plus facile à faire que le théâtre. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que au cinéma. Non,
mais Pablo a commencé en disant oui, oui, c'est vrai. Et au moment où il n'est pas d'accord, fait, ok, d'accord, bah, je vais prendre un peu d'eau.
Ouais, parce que le théâtre, il y a les répétitions, il y a tout ça. Et en fait, on n'est pas coupé dans le rôle. C'est-à-dire, on prend le personnage au début et puis voilà, on a le temps de rentrer dans la peau du personnage. Ce qui est difficile au théâtre, c'est de gérer le trac. Ça, je reconnais que c'est un enfer.
Et d'y retourner tous les soirs et de trouver peut-être des choses différentes tous les soirs aussi pour ne pas tomber dans une répétition.
Ça aussi, c'est compliqué.
Rébarbative, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Alors,
au-delà de ça, c'est.
Alors, au cinéma, il faut être tout de suite dans le rôle sans qu'il y ait la montée en puissance, c'est ça?
Oui, et puis parfois, on vous dit, allez, dépêche-toi vite, parce que là, la lumière tombe, ou là, on n'a plus le décor, alors il faut être bon tout de suite, c'est un peu ingrat. Hein.
Ou c'est l'inverse.
Il y a beaucoup d'attentes.
Ou c'est l'inverse, c'est ça, c'est reste assise et attend que la lumière soit prête. Et...
Voilà, ça peut être effectivement l'inverse.
Et finalement, on ne la tournera pas aujourd'hui, on la fera demain, et là, on a pour
rien. C'est
ça, en
fait, c'est un métier de con.
Non, mais il y a beaucoup.
C'est un bon résumé.
Il y a beaucoup d'attentes, en tout cas. Ça, c'est vrai.
Ouais, il y a beaucoup d'attentes.
Et on fait quoi dans ces cas-là? Pendant que les équipes s'installent, pendant que on attend la lumière ou qu'on attend qu'un nuage soit parti parce qu'on tourne en extérieur et qu'on n'est pas raccord avec le nuage qui était juste avant, on lit, on écoute de la musique, on mange à la table régie, quelles sont les
réflexions? On boulotte.
Pardon?
On évite un petit peu.
D'accord.
On boit, je pense, 150 cafés par jour. Et ça dépend des films, ça dépend du temps que t'as aussi. Ouais. Parfois tu fais rien, parfois tu discutes, parfois t'es sur ton portable, tu t'en veux. Ça dépend. Faut être prêt au bon moment. Donc parfois t'as une heure, parfois t'as trois minutes. C'est un enfer.
On a souvent entendu des actrices, des acteurs ici dire qu'ils avaient une bande originale pour se mettre en condition, en écoutant de la musique, se mettre en condition de leur personnage. C'est votre cas, Sandrine?
Pas du tout.
Pablo.
Par contre, j'aime écouter de la musique en loge, ça j'adore.
Mais qui n'a pas de rapport avec votre personnage, ouais, vous ne vous mettez pas dans un état de tristesse ou de bonne humeur avec de la musique pour
pas
être dans
tout.
Le personnage.
J'aurais même une tendance à mettre des bonnes percussions brésiliennes par exemple,
une batucada.
Avant de jouer
une tristesse. D'accord, ouais. Pablo
Non, je ne me mets pas dans des états avec la musique, mais j'aime bien faire des playlists de mes personnages. C'est un truc qui me plaît depuis toujours, de ce mec-là, il est comme ça, donc pour moi il écoute tel mec. Ça me plaît.
Et dans 3 jours et une vie, vous écoutiez quoi alors? Quel genre, en tout cas?
Ah, c'était plus un délire un peu Nick Cave et un truc un peu dark.
Ouais. Un peu dark, d'accord. 3 jours et une vie, ce roman donc de Pierre Lemaitre, qui avait entre autres signé Au revoir là-haut, qui avait été un succès et littéraire et cinématographique, a demandé à Nicolas Boukrieff, on va en parler avec lui tout à l'heure, avec Pierre Lemaitre, c'est une commande, il l'a contacté en disant « Je voudrais que vous réalisiez mon film », et grand bien lui a pris parce que c'est le résultat est absolument génial. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans l'histoire, si ce n'est de dire que ça se passe dans un petit village où tout le monde se connaît, que vous êtes Sandrine Bonnaire, maman d'un petit garçon, que vous l'éduquez seule, que vous êtes la voisine d'en face d'un père un peu alcoolique qui
bosse dans une usine qui ferme.
Ouais.
C'est aussi un bassin. C'est pas qu'un thriller, c'est aussi un film très social. C'est-à-dire que c'est aussi des conditions de vie difficiles, l'incertitude du lendemain.
On est en Belgique.
Ouais.
On est en Belgique, le père en question...
Déjà là, socialement, ça fout un coup. Hein. On est en Belgique,
Le père en question, c'est Charles Berling. Alors, le personnage est très rapidement campé, parce que, il s'engueule dans une réunion à l'usine. Deux, il dit même pas merci à son gamin ou qui lui apporte sa gamelle pour son repas. Et on sent qu'il y a une espèce de... Voilà, il est à bout. Il est tellement à bout, d'ailleurs, qu'avec son fusil, lorsqu'un animal est blessé, il lui règle son compte rapidement. Donc on voit que lui, il est vraiment sur un fil, qu'il est très tendu.
Oui, il est très
et que la vie,
de peau. Ouais.
Et que la vie ne lui est pas particulièrement douce.
Absolument.
Il est papa de deux enfants, une fille et un garçon. Et justement, il y a un jeu de regard, de séduction entre votre fils, qui a une douzaine d'années à ce moment-là, et la petite fille d'en face, qui est l'amour de sa vie, qui est la blonde pour laquelle il est prêt à tout, à se réveiller tôt le matin pour guetter si la lumière de sa chambre s'allume ou pas, et il règle sa vie comme un métronome sur le rythme de cette jeune fille parce qu'il en est éperdument amoureux. Malheureusement, c'est pas réciproque à ce moment-là, et c'est peut-être le moment où tout bascule.
Oui, en tout cas, il y a un événement qui va faire que tout le village...
Non, je veux dire, pardon.
C'est une déception amoureuse.
Ouais, c'est ça. Moi, le sentiment, c'est cette déception amoureuse.
C'est ça qui est joli.
Où le petit garçon va changer de manière de se comporter.
Ça va
et donc,
son
tout va basculer
destin.
Sur ça. Ouais. Sur une histoire d'amour.
Tout à fait. C'est effectivement, cette histoire amoureuse, enfin cette déception amoureuse va faire basculer
son comportement.
Voilà, il va se passer quelque chose qui va faire que...
On va dire, il va se passer un drame.
Il va se passer un drame, voilà.
Ce drame va toucher tout le village.
Ça va changer tout le comportement des gens dans ce village. Et, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une loupe sur l'humanité. Mmh. Pierre écrit très bien tout ça, on est vraiment sur tous les comportements des personnages. Alors, ça parle de chagrin, de colère, d'amour, qu'est-ce qu'on peut dire, de secret,
ouais, et puis
de résignation,
de culpabilité,
aussi,
ouais. De suspicion. Ouais.
Et de résilience aussi, et de reconstruction après un drame, parce que ouais. On l'a compris, puisqu'on a dit que votre personnage, Pablo, était d'abord... Enfin, pardon, il s'appelle comment?
Incarné par un petit Jérémy. Garçon qui est super.
Jérémy Sénès.
Le personnage
Antoine.
Le petit garçon, c'est Antoine Courtin, c'est ça?
Exactement.
Ouais. Voilà. Antoine Courtin qui joue votre personnage, Jérémy, jusqu'à... Enfin, autour des 12-14 ans, ouais. Et puis ensuite on se retrouve des années après avec vous, mm-hmm. Donc on sait que c'est pas vous qui êtes entre guillemets la victime du drame, sans spoiler, il y a un drame mais qui se passe autour du village, et de vous revoir. Alors après, faut m'aider pour me dire ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire dans le film.
On peut rien dire.
T'as fait le tour.
On va demander à Pierre d'en parler, comme il va venir dire tout à l'heure. On peut dire ça très bien.
Ouais, on peut dire qu'il y a un temps qui s'écoule, et qu'on retrouve votre personnage adulte
15 ans après,
qui revient dans le village pour des fêtes. C'est aussi parce que le drame se produit
Noël.
Pendant
ah oui, Noël, période de fête. Noël est le gimmick. Ouais,
et,
ça, ouais.
Et donc il revient 15 ans après voir sa mère. Il a grandi, il est médecin. Ça, on peut le dire. Il est devenu médecin parce que petit, il adorait le personnage incarné par Philippe Torreton, qui était un peu
superbe,
qui, voilà, ouais. Qui est une sorte de figure paternelle pour lui, qui le nourrit en livre. Et donc
cadeau de Noël.
Il a réussi quelque part sa vie, mais finalement son passé ne l'a pas complètement abandonné. On peut le dire comme ça.
Merci d'être venu.
On peut juste préciser une chose, c'est que le drame, c'est la disparition d'un enfant, puisque dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une battue et que le village s'organise dans la forêt pour rechercher cet enfant. On peut au moins dire ça. Voilà. Oui. C'est autour de ça.
On peut dire que c'est pas tellement un thriller, c'est plutôt un roman psychologique sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qui a tué qui. Enfin, c'est ça que je trouvais intéressant.
Ah,
moi.
Très bien. Donc voilà. Moi, la disparition directement, c'est qui a tué. Très
non,
bien.
Parce que par exemple, moi, je pourrais jamais regarder un film qui fait peur où il y a une enquête. Je déteste. Et là, c'était vraiment une analyse psychologique. C'est ça, moi, qui m'a plu. Du coup,
ça fait pas un thriller, ça peut être psychologique.
Ouais. Non, mais j'ai trouvé que c'est très différent d'un roman. Non, on dit pas roman noir ou quelque chose comme ça. C'est ça que j'ai aimé. On s'intéresse plus à la culpabilité et qu'est-ce qu'on en fait.
Ce qui est intéressant et ce qui est fort dans ce roman, c'est qu'il y a justement tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les rapports d'une mère avec son fils, il y a les rapports de voisinage, il y a les rapports de vie dans un village qui est comme ça, presque refermé les uns sur les autres, où tout le monde sait tout. D'ailleurs, c'est tout le monde se croise, se regarde, qui était où, à quelle heure, qui sort avec qui fréquente quoi, la voiture est passée où, t'étais là. Enfin, tout se sait.
C'est minuscule comme village, ouais, parce que dans la place du village, on voit la boulangerie, le commissaire.
L'église,
tout.
Ouais, c'est une sorte de huis clos.
C'est une sorte
de huis clos. Ouais.
C'est ça. Et puis il y a cette forêt où il y a cette disparition. Et puis comment gérer un drame autour d'un enfant et comment expliquer aux enfants un drame et comment expliquer à des parents qui perdent leur enfant et comment ceux qui sont responsables de ce drame vont vivre avec cette culpabilité, cette reconstruction, cette résilience. Et moi, je tiens, j'insiste sur l'histoire d'amour, parce que c'est quand même ça, du début jusqu'à la fin. Oui. C'est une belle et longue histoire d'amour entre ces deux voisins. Et c'est
terrible.
Génial. C'est génial. Alors, c'est frustrant, on ne peut rien dire, si ce n'est, il faut absolument que vous allez le voir.
Là, j'imagine les auditeurs derrière le poste. Bon, on n'y va pas. Là, ils disent rien. C'est bien, c'est pas bien. Non,
et même si vous avez lu le roman.
Ça vous donne envie ou pas? Ouais. Oui, non, mais c'est vraiment génial, je vous assure.
Et même si vous avez lu le roman, moi j'avais lu le roman, et vraiment, le film est génial. Voilà, ça vaut le coup de le voir aussi.
On a trouvé une autre solution pour que vous disiez rien, Pablo et Sandrine.
Oui, pardon, excusez-nous.
Bah, c'est parfait.
On a trouvé une autre solution.
Encore
une autre solution. C'est Tom Villa qui va faire et les questions et les réponses. Tom Villa.
Sandrine Bonner, Pablo Poli, merci de venir nous voir dans la bande originale et merci d'accepter de répondre à mes questions.
Non, j'en ai pas très envie là, franchement.
Ah bah d'accord, Sandrine, très bien. Cool. Pablo, peut-être que vous pouvez m'aider.
Crois en tes rêves.
Très bien, merci Pablo. Donc, vous venez nous voir pour le film 3 jours et une vie et oui, Sandrine
Je suis épatée de voir des gens qui, oui, qui travaillent, qui se lèvent à 5h du matin.
Ou alors Nicolas Demorand peut-être, mais Nagui, il arrive à 11h02, il se lève à 11h moins le quart.
Quoi? Elle a raison, je travaille.
Alors, bon, vous pouvez peut-être nous parler de ce film, Sandrine.
Ah, mais il ne faut pas être voyeuriste, c'est... non, c'est pas bien.
Alors, voyeuriste, peut-être que c'est un petit peu exagéré, ouais. Je sais qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est quand même une question classique, ça ne me paraît pas très intime non plus. Donc,
C'est pas à nous de donner les réponses.
Un petit peu, c'est le principe de l'interview. Hein. Pablo, vous acceptez de me répondre?
Moi, je parle beaucoup avec les mains.
Ouais, bah alors, ça va être très compliqué parce qu'on est à la radio, là, donc...
Vous pouvez pas le savoir.
Ah bah si, vous pouvez le savoir, il y a des indices, il y a des micros, Nagui n'est pas maquillé, enfin bon, je dis ça de... Sandrine, comment c'était le tournage avec ce chouette partenaire?
C'est un acteur pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Ah bah c'est cool, ça va faire plaisir à Pablo, ça c'est chouette. Ça, c'est...
En fait, j'avais pensé à Jacques Dutronc.
Désolé Pablo, mais Sandrine, avec Pablo, ça a été...
Je l'ai rencontré après le tournage, il n'y a pas très longtemps là.
Attendez, vous êtes dans le même film, comment vous avez pu le rencontrer après le tournage? Enfin, je vous ai vu jouer ensemble, ça veut dire que vous avez tourné l'un sans l'autre, c'est ça?
C'est pas faux.
Mais du coup, vous êtes rencontrés où après le tournage?
Chez un président de la République.
Classe. Ah ouais? Et quand?
Il y a 15 jours.
Ah bah ok, d'accord, bah tout se recoupe. Okay. Je vous sens pas très réceptif à mes questions. Il y a quelque chose qui vous gêne peut-être chez moi, Sandrine?
Une mauvaise haleine.
Merci beaucoup.
Il y a des trucs vrais. Hein.
Pablo, ça vous fait rire, ça, hein?
Plus c'est trash, plus c'est drôle.
Oui, oui. Allez, on se concentre. Pablo, c'est quoi votre passion dans la vie?
J'attache mes pieds ou mes mains.
Eh bah très bien. Et vous, Sandrine, votre passion?
Avoir des... du gravier dans la bouche.
Eh ben, très bien. On va terminer là-dessus. Bonne émission.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
On savait pas tout. Hein.
Donc, ce très 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 bon film qui sort demain, qui s'appelle 3 jours et une vie.
J'ai oublié de dire que Tom Villa, après une chronique aussi exceptionnelle, était à Lille le 11 et le 12 octobre.
Tout
aussi.
À fait.
Et oui, pour son spectacle, les nommés sont.
Non, pour aller faire la brocante.
Toi, c'est pour ton spectacle. Et que Nicolas Demorand se lève bien plus tôt que 5h du matin.
Et que Nagui.
Donc.
Et que Nagui n'est toujours pas réveillé à 11h31.
Moi, je me réveille à 12h30. Parce que là, je rêve. Je rêve de vous avoir, de parler de 3 jours et une vie, de cette. Réalisation de Nicolas Boukrieff. On demandera tout à l'heure à Pierre Lemaitre quel était le moteur de ce choix, mais quel bon choix, parce que encore une fois, le grain de l'image, de la lumière, des cadres, on est dans un film extrêmement moderne et qui à la fois répond à tous les codes justement de ces thrillers, de cette angoisse, de se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que dans l'image, comme s'il y avait des indications, des indices, est-ce que je n'ai pas remarqué tel objet sous le lit ou tel truc posé sur le lavabo. Enfin, j'ai envie presque de le revoir ce film tellement je l'ai aimé. Et puis il y a ce suspense et cette histoire dingue, c'est-à-dire
qui vous tient du début à la fin en fait.
C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements et que chacun y va de ses pistes et que même si on connaît une espèce de vérité, on a quand même envie de savoir comment vos personnages vont se sortir des situations dans lesquelles ils se sont mises, ou même ce qui se passe, vous l'avez dit tout à l'heure Sandrine, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la maman, qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle ne sait pas, on peut même dire que c'est une espèce de mystère, même si à la fin quand même on comprend certaines choses.
Oui, à la fin.
Il y a des révélations.
C'est vrai qu'en général, à la fin, on comprend des trucs.
Non, pas toujours. Pas toujours. Non, il y a des films où il peut y avoir des énigmes. Mais non, mais là, on comprend de quoi la mère, comment la mère s'est construite dans le silence. Bizarrement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a cet amour maternel, encore une fois. Il y a l'amour entre la petite fille et le petit garçon. Il y a l'amour qui revient des années après.
Ouais, c'est vraiment une étude de genre, quoi, du genre humain, quoi, de caractère.
Tout à fait,
c'est
vraiment
Il y a amour, il y a la détestation de soi aussi. Il y a ceux qui n'aiment pas vivre avec ce qu'ils sont, ce qui est un peu le cas du personnage de Charles Berling, ce qui peut être le cas aussi de votre personnage, Pablo, où vous êtes tiraillé entre les différents aspects de votre personnalité.
Ouais, mais je pense qu'on l'est tous un petit peu. Là, c'est un peu particulier, parce qu'il y a un gros secret.
Faut m'aider les deux là, parce que moi, je sais déjà, je peux rien dire sur le film si en plus vous faites que des réponses avec des
oui. Mais nous, on peut rien dire sur le film.
Pourquoi vous êtes venus alors?
Parce qu'ils aiment ce film.
Mais pour vous voir, Nagui, on vous aime bien.
Ouais, c'est ça.
Et la vraie raison, c'est quoi, Sandrine?
Bah, un mec maquillé en 11h, c'est toujours drôle à regarder.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans le film? D'abord, est-ce que vous avez lu le roman ou vous avez tout de suite lu le scénario?
Moi, j'ai commencé par le scénario et d'accord. Ensuite le roman.
Pablo, je vous pose la question, vous n'avez toujours pas lu.
Si, bien sûr, si. Arrêtez cette image, faut qu'elle s'arrête. J'ai lu le roman après. J'étais ravi de l'adaptation parce que le roman est beaucoup plus trash que le scénario. Et l'enfant est plus. J'aurais moins aimé le jouer.
Ah, carrément,
il est
d'accord.
Ouais, franchement, il me plaît pas des masses.
Il est moins touchant. C'est vrai qu'il
est moins touchant, plus violent. Et ça va, il y a quand même des limites.
D'accord, mais parce que c'est vrai que votre personnage est touchant.
Merci.
Non, c'est vrai qu'il est touchant.
Vous avez l'air tellement gentil, en fait.
C'est très faux, tout ça.
Ouais, c'est vrai, mais ça marche vachement bien.
N'en dis pas trop.
Non, mais c'est vrai qu'il a un regard
hyper
tendre.
Quand elle est amoureuse, elle est lyrique.
Mais non, je ne suis pas du tout amoureuse. Non, mais il a l'air hyper tendre. Et c'est vrai que je trouve que, par rapport au roman, là, il y a un contraste. De toute façon, l'incarnation, tout de suite, elle apporte quelque chose d'autre, puisqu'on n'a plus besoin d'imaginer le personnage. On nous fait une proposition, et votre personnage, ce petit garçon devenu grand, est un peu plus aimable, au fond. Mm-hmm. Ouais.
Tout à l'heure, on a dit que le comédien s'appelait Antoine Courtin. Jérémy.
Oui,
c'est ça,
Jérémy Sénèze.
Ouais, il est dingue.
Incroyable.
Jérémy Sénèze, pardon. Et à Jérémy, et surtout à papa, maman Sénèze, qui sont extrêmement fiers et qui ont raison de leur fils.
On sait pas ça.
Tellement. Si. Il n'y a que toi qui n'aimes pas tes enfants. Normalement, les parents aiment leurs enfants. Sandrine Bonner, Pablo Poli, Charles Berling, Philippe Torreton, Margot Blancilon et Jérémy Sénèze, la réalisation de Nicolas Boukrieff, l'écriture de Pierre Lemaître, l'adaptation de son roman Trois jours et une vie, un sublime film qui sort demain, qu'il faut absolument voir. Voici.
Et il y a aussi de formidables acteurs belges.
D'ailleurs, moi, je les ai moins bien. Non, je blague. Non, je blague.
De mal.
Voici Agnès Surtel.
Revenons, s'il vous plaît, sur vendredi dernier. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'était vendredi 13, jour de chance pour certains, de malheur pour d'autres. Il y a un nom pour cette peur, ça s'appelle, attention, la paraskevie décatriaphobie. Paraskevie en grec, cinquième jour de la semaine, vendredi, décatria, 13, phobie, la peur. Voilà, on s'en souviendra jamais.
Non.
Vendredi dernier, il y a eu énormément d'infos.
Triadécaphobie ?
La peur Paraskevi décatriaphobie.
Décatria, non mais la peur du 13, on peut la retenir.
Ouais, décatriaphobie,
ok.
Énormément d'infos hot vendredi dernier. À 6h59, démarrait un mouvement de grève exceptionnel de la RATP, permettant ainsi au cours de la journée à Uber de multiplier ses tarifs par 60, ce qui n'arrive jamais, à part en Fashion Week le samedi soir, le mardi, le jeudi et le vendredi à partir de 18h. À 7h pile, Sabrina, 36 ans, sortait de chez elle avec une gourde et des chaussures de marche pour se rendre à son travail à 2h à pied pile selon Google Maps. À 7h01, Laurence Bloch, quant à elle, se réveillait déjà coiffée, propre et rousse, dans son bureau de la maison de la radio, ayant préféré y dormir plutôt que de souffrir de la proximité des corps humains stressés dans le métro. À 7h03, Laurence se brossait les dents aux toilettes du 6e étage, juste là, se faisant un clin d'œil dans le miroir, tellement sa journée à elle commençait bien. À 8h44, Patrick et Isabelle Balkany tentaient, eux, leur chance à Euromillions, au PMU en or massif, situé juste en face de leur mairie de Levallois-Perret. À 9h36, un chat noir traversait la rue devant moi. Aïe. Et se faisait renverser par un couple d'adolescents à deux sur une trottinette électrique. J'aurais vraiment préféré que les adolescents meurent, mais ça, j'ai pas trop le droit de le dire.
Non,
à 10h22, Sabrina arrivait enfin à son travail, deux énormes taches de sueur sur sa blouse fuchsia, en retard à sa putain de réunion client, maudissant Google Maps qui lui avait promis 2h et non pas 3h24 de trajet. En fait, elle avait mal vu, Sabrina, parce que parfois, voilà, on suit l'itinéraire vélo de Google Maps et pas non plus celui à pied parce qu'on est myope ou débile, les deux, je sais de quoi je parle. À 14h pile, Patrick Balkany entrait finalement à la prison de la santé, dans la zone personnalité vulnérable, et découvrait sa cellule de 9 mètres carrés, et il se faisait la réflexion que c'était exactement la taille de ses toilettes japonaises à Levallois-Perret avec jet d'eau et séchage de poils de fion, et il se disait que c'était peut-être ça finalement qui allait le plus lui manquer, plus que sa femme Isa. À 15h08, je prenais quant à moi un train SNCF qui avait zéro retard, je le répète, zéro retard, ça m'était pas arrivé depuis mai 96, donc je le précise. En montant dans ma voiture 12, un monsieur m'a aidé à porter ma valise, puis je suis allée aux toilettes. toilettes, il restait du papier et elles étaient propres. Autant vous dire qu'il me faudra attendre un prochain vendredi 13 pour revivre une joie aussi intense. À 16h17, Ariane Massenet, qui ressemble décidément de plus en plus à Isabelle Balkany, annonçait sur son compte Instagram qu'elle devenait comédienne de théâtre. À 19h était diffusé sur France 3 l'épisode 3885 de Plus belle la vie, dans lequel on apprenait enfin que c'était en réalité Abdel qui avait tout manigancé depuis le début avec Alison. Je vous jure, c'est vrai, hein, évidemment. Parce qu'en PACA, même les dialoguistes sont xénophobes. À 20h48, Euromillions dévoilait ses chiffres gagnants et Ghislaine, 98 ans, empochait 72 millions d'euros et décédait immédiatement d'un infarctus du myocarde devant son téléviseur Grunding. Encore une fois, j'aurais préféré que ce soit les deux ados en trottinette qui décèdent. Isa et Patoche, eux, n'avaient tiré aucun numéro gagnant. Belle journée de merde pour eux deux. Et puis la nuit est tombée et c'était la pleine lune, comme par hasard. Encore un coup des Illuminati. Bref, c'était une journée de malade, je m'en remets toujours pas. Et sinon, je voulais juste vous dire que hier, dans l'épisode 3887 de Plus belle la vie du 16 septembre, sachez qu'Abdel est mort. Voilà. Bonne semaine à tous.
Tu spoil. Merci.
France Inter. Maggie. La bande originale.
Alors la musique justement, la bande originale de vos vies, Sandrine Bonnaire et Pablo Poli. On va commencer en 2008. Sandrine, vous écoutiez. Vous écoutiez, vous aimiez cette musique. Elle évoque quelles images pour vous ?
En fait, c'est une musique qui a déjà été utilisée dans le film de Nanni Moretti, Journal intime, que j'ai réutilisé pour le documentaire sur ma sœur Sabine. Oui. Voilà, et Piovani m'a offert les droits.
Et alors, pardon, pourquoi, très sympathique. Pourquoi cette musique ? Qu'est-ce qu'elle vous procure comme émotion ?
Ben d'abord, c'est du piano et c'est en référence à Sabine qui jouait très très bien du piano à l'époque. Et voilà, et ça accompagnait bien cette mélancolie qu'elle a fini malheureusement par avoir malgré elle. Et voilà, ça retrace plutôt bien ce navrant constat de cette très mauvaise prise en charge de l'époque. Et voilà, cette musique est assez triste. Et ça, voilà, ça allait bien avec le parcours de Sabine.
Vous réalisez ce documentaire pour alerter les services publics, pour tout d'un coup mettre un peu de lumière là-dessus. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous individuellement ? De vous lancer dans ce documentaire qui est quand même très poignant, ouais.
Ce que ça m'a apporté, c'est... à moi, je sais pas, en tout cas... avec ma sœur, on est très très liés, évidemment. Je crois que ça a apporté beaucoup à Sabine, dans le sens où elle s'est sentie utile.
Oui.
Et c'est vrai que les personnes handicapées mentales, c'est aussi souvent pour ça qu'on les traite de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utiles à la société, donc on n'en fait rien.
Et le doc a changé quelque chose, justement, au regard de soit des autorités, soit du ministère de la Santé, que sais-je ?
Alors, je pense que ça a beaucoup sensibilisé les gens dans tout, enfin, le public. Je reçois encore beaucoup de lettres.
Et les responsables ?
Ce que ça a changé, c'est que je pense qu'il y a moins de culpabilité, justement, de la part des familles. Il y a moins de honte à dire qu'on a quelqu'un de différent. Il y a moins de peur aussi, ce qui est très important. En revanche, au niveau des pouvoirs publics, ben il reste encore beaucoup à faire. Bon, il y a des choses qui ont un peu bougé.
Les infrastructures, les maisons d'accueil et le.
Oui, il y a encore beaucoup de demandes.
Vous écoutiez. Vous voulez rajouter quelque chose, pardon ?
Non, c'est. Voilà.
Vous écoutiez Pablo Poli à ce moment-là, Erykah Badu. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. Et correspond à quoi cette musique ?
De quoi, pardon ?
Et correspond à quoi cette musique ? C'est à des sorties nocturnes ou à
Non, loin de ça. Ça correspond à un passage dans ma vie d'écouter que du rock, un petit peu dark, qui venait de mon père. Après, j'ai switché sur du hip-hop aussi un petit peu trop dark, et j'ai découvert l'R&B soul avec des voix, et je me suis
mis
et je me suis mis à adorer tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et Erykah Badu, pour moi, c'est quand même une énorme référence en soul, et cette voix et les instrumentalisations derrière, tout est... J'adore cette nana, j'adore ce qu'elle fait.
Et vous faites votre entrée en 2009 au cours Florent.
Ouais.
Qui vous conduit au cours Florent? Comment vous vous inscrivez là-bas?
On sait pas trop. Et dans ma famille, ça se bagarre un petit peu. Ah. Tout le monde me dit, tu sais que c'est un tel qui t'a dit d'y aller, c'est un tel qui t'a dit d'y aller. J'y crois pas trop, donc je ne sais pas. Mais au final...
Votre souvenir à vous, c'est quoi?
Je sais pas non plus.
Qui êtes-vous?
Ça, je
sais. Je ne sais pas. On m'a dit d'essayer. Je ne sais plus vraiment qui m'a dit essaye. Ça me ferait plaisir que t'essayes.
Mais vous souvenez pas?
Non, vraiment pas.
Et vous avez suivi ce cursus et aussi en plus un cursus anglophone, ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez jouer en anglais.
Enfin, j'y travaille beaucoup.
Ouais. Pourquoi?
Parce que j'adore ça. Parce que mes films préférés sont des films qui sont joués en anglais.
Ouais.
Mes acteurs préférés sont des acteurs qui jouent en anglais. Et que je voulais m'essayer à ça, et je me suis mis à apprendre l'anglais, et ça fonctionne plutôt pas mal.
Les accents toniques, le jeu, ça doit être totalement différent, non, de jouer en français.
Et c'est pas désagréable, parce que
la musique est pas la même.
La musique est pas la même, exactement, et le rythme est assez intéressant. Nous, on a quand même énormément de mots en français. C'est un petit peu difficile. En anglais, c'est une espèce de jeu de pensée, tu vas au bout de ta pensée, tu vas pas au bout juste de ta phrase. Et le rythme est assez intéressant quand tu joues.
En 2012, Sandrine Bonnaire, vous écoutiez... Ça, c'était en faisant des mouvements avec votre tissu pendu au plafond ou...
Non.
Ça correspond à quoi alors? C'est non, trois pièces correspond... dans un style ancien.
Oui, trois pièces dans un style ancien d'Henrik Górecki. Alors, ça correspond à pareil. En fait, j'ai choisi des musiques qui ont accompagné mes films. Alors, pas ce morceau-là de Górecki, mais voilà, j'ai tourné un film de fiction qui s'appelle J'enrage de son absence.
Votre première réalisation de long métrage.
Voilà. Tout à fait. Et il y a un morceau de Górecki que j'ai... En fait, j'ai écrit une scène, la scène de fin, liée à... Pas à ce morceau-là qu'on entend, mais à un autre, des trois pièces anciennes.
Alors pourquoi celui-ci en particulier?
Je ne sais pas, parce que je vous ai mis trois pièces anciennes, mais j'aurais dû préciser que c'était le dernier, peut-être.
Ah, d'accord, ok.
Mais ce n'est pas grave.
Dernier mouvement,
pardon. De toute façon, Górecki, c'est tellement merveilleux. Et voilà, et c'est ce morceau de musique est très très chahuté. Et en fait, j'ai écrit cette scène en fonction de cette musique et j'ai demandé aux acteurs de jouer, parce que c'est une scène de bagarre et en fait tout est chorégraphié en fonction de la musique. La scène est vraiment construite en fonction de la
musique. Comment vous l'avez trouvé la musique?
Alors la musique.
Elle a tellement d'importance là dans votre direction d'acteur.
Alors ce morceau-là, je l'ai trouvé grâce à Jacques Dutronc. Jacques Dutronc.
Pablo, tu sors, s'il te plaît.
Effectivement, j'avais pensé à lui pour le rôle que finalement William Hurt a fait. Mais Jacques, en fait, il était un petit peu trop âgé pour le rôle, puisqu'il y a une histoire d'enfant dans dans le film, et bref. Mais j'étais chez Jacques et on parlait musique et il m'a donné des petits mini disques où il avait composé de la musique. Mais alors de la guitare. En fait, c'est un très grand guitariste. Et voilà, et j'étais reparti avec ces mini disques. Et là-dessus, il y avait aussi Górecki. Ah voilà.
Ah bah vous demandez, on fait. Hein.
Et c'est une fiction, mais qui est inspirée d'un épisode de la vie de votre mère. J'enrage de son absence.
Oui, c'est parti d'un. Ma mère aurait dû épouser cet homme, et puis les parents lui ont interdit. Donc elle a fait une dépression. On l'a envoyée dans une famille d'accueil où elle a rencontré mon père. Pour se débarrasser de ses parents, elle a épousé mon père. Elle a eu 11 enfants avec cet homme qu'elle n'aimait pas. Et puis, elle a retrouvé Guy. Il s'appelait Guy. Ils se sont retrouvés. Elle l'a caché dans la cave de l'immeuble où on habitait. Parce que c'était une histoire illégitime. Et puis nous, on était au courant de... Il y avait une histoire de secret aussi. Je regarde notre cher Pierre Lemaître.
Et une histoire d'amour d'enfance, et une histoire illégitime, et
voilà,
des amours cachés.
Des amours cachés. Et cet homme, je l'ai retrouvé à l'âge de 20 ans. C'est lui qui m'a reconnu. J'étais à la poste du Louvre et j'ai entendu Sandrine. Et je me suis retournée et cet homme était devenu SDF. Et il avait 10 francs en poche. Il m'a dit, viens, on va boire un café. Et il m'a raconté qu'il avait jamais fait le deuil de ma mère. Mmh. Et donc, il avait basculé à cause de ça. Et je me suis dit, un jour, je lui rendrai hommage. Et donc, c'est devenu J'enrage de son absence.
Fait la chair de poule d'écouter ces histoires. Ouais. Pablo, vous écoutiez dans cette année 2012.
J'écoutais Kendrick Lamar.
Eh ouais.
Il va y avoir contraste hein, avec forcément ce que vient de raconter Sandrine.
Vous êtes un peu nightclubber ou pas du tout?
Non, pas une seule seconde.
Ah, vous sortez pas en boîte, vous dansez pas?
Non, pas du tout. Si, danser si, mais les boîtes,
vous dansez
les
mots, alors,
ça m'intéresse que très peu.
Dansez-vous dans le métro, dans la rue?
Non, salon. Mais... Ouais, dans le salon. Mais normalement dans ma douche, t'as pas idée.
J'ai une grande douche.
J'ai une très grande douche. Les fameux 9 mètres carrés de Balkany.
Grosse douche.
Et en 2012, non seulement vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et vous décrochez votre premier rôle au cinéma. C'est à peu près dans la même période. C'est dans Mince alors de Charlotte de Turckheim. C'était peut-être un petit peu après, non? Ou c'était...
Je crois que c'est vachement avant.
Ah ouais, j'ai pas les dates précises.
Mais ouais, c'est mon premier petit truc au cinéma.
C'était quoi votre rôle, vous vous souvenez?
Je devais faire un chauffeur de bus. Elle était adorable de me prendre. C'est la mère de ma meilleure amie. Et elle me prend dans son film.
Julia Piaton, est-ce que c'est...
Non, pas Julia, Joanna, la plus Joanna, petite. D'accord. Mais Julia aussi est une très bonne amie. Et j'arrive à Bride-les-Bains, dans un truc où c'est un centre pour personnes un petit peu gros. Et on me dit, tu prends le bus, vas de là.
Ça s'appelle une thalassothérapie.
Merci beaucoup, mais vu que je fais 20 kilos, je n'ai pas la réponse.
Centre pour personnes grosses, ça s'appelle thalassothérapie.
Ouais. Ah bon?
Au moins, on voit bien ce que c'est.
Je sais pas, non, je pense.
Et je fais le chauffeur de bus, elle me dit, tu prends le bus, tu vas de là à là. Je dis, il n'y a pas de problème, je peux le faire, mais je n'ai pas le permis. Et, je pense qu'il faut que vous soyez au courant. Mais
tous les acteurs mentent, hein, c'est dingue. Hein.
Bien sûr.
Et pour avoir le permis bus, c'est rare de l'avoir.
En même temps, j'ai 18, 19 ans, permis bus.
On a reçu l'armée.
Donc je leur dis, il n'y a pas de problème, je le fais, c'est pas grave, je peux conduire. Juste, je me dois de vous dire ça.
Ouais.
Surtout, c'est un peu énervé. Pablo, tu n'as même pas de prénom dans ton film, tu t'appelles le chauffeur de bus. Tu aurais quand même pu nous dire ça avant. Et Charlotte, hyper gentille, a dit, non, mais il est super. On va mettre quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas, mais on le garde. C'est mon premier rôle au cinéma.
Pierre Lemaitre, bonjour, merci de venir à ce micro.
Quel bonheur.
Et bravo, ouais, on est ravis. Je rappelle donc que vous avez reçu le prix Goncourt pour Au revoir là-haut et vous avez aussi le César en 2018 pour l'adaptation de cette même œuvre. Il est évident que vous adaptiez vous-même vos propres romans, vous laissez le soin à personne d'autre de le faire?
Non, cette affaire de circonstances, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Là, avec Albert Dupontel, c'est surtout lui qui avait fait l'adaptation. Hein. Moi, je lui ai plutôt servi de sparring partner. Par contre, là, avec Perrine Marguen, on a assuré le travail de bout en bout. Non, ça dépend des romans, ça dépend des histoires.
Alors là, de bout en bout, réellement, parce que vous écrivez le roman, vous l'adaptez avec elle, vous le coproduisez, c'est vraiment...
Oui, puis à la fin, je nettoie le studio, je balaye, c'est tout. Hein. Ah, c'est moi qui me suis occupé des papiers toilettes sur le plateau. Enfin, franchement, j'étais bien.
Sandrine m'a parlé des massages aussi, des pieds.
Oui, j'ai fait les massages, surtout avec Pablo.
Donc, voilà. Non, il est encore plus au début ce
oui,
film-là.
Oui, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Je l'ai revu hier soir, on avait une avant-première à Paris.
Et on est d'accord, il est dingue, hein?
Hein?
Il est dingue ce film. Ouais.
Ah oui, c'est un film formidable. C'est un film très élégant, c'est un film très mystérieux et qui renoue. Alors je sais pas, j'ai pas assisté à toute l'émission. D'abord, bravo, vous avez passé une heure à slalomer pour éviter de spoiler.
C'est à cause de vous.
J'étais en régie, je vous voyais transpirer. Vous avez réussi à parler du film assez bien, je trouve, avec beaucoup d'enthousiasme, sans en dire trop.
On vous attendait.
C'est de slalom géant, c'est magnifique.
Tout à l'heure, je n'y arrivais pas et Sandrine m'a dit, mais on va attendre Pierre Lemaitre. Ouais, lui le fait bien. Lui. Alors on vous attend, maître.
Ben écoutez, le film est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, non seulement parce que c'était une très très belle histoire d'amitié avec les gens qui l'ont fait. Je suis content de retrouver ici Sandrine et Pablo, mais aussi parce que c'est un film un petit peu rare sur les écrans français. On n'a plus trop l'habitude de ce cinéma.
C'est vrai.
Qui prend globalement son essor à partir de Clouseau et qui, vous voyez, Le Corbeau, le film de Village, le film de Huis Clos, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où le village est lui-même un personnage, comme la forêt elle-même.
Non, mais c'est l'Assassin Bido 21, c'est Amélie.
Oui, tout à fait. Et qui va même du côté du Huis Clos jusqu'à Claude Miller, jusqu'à Garde à Vue, si vous voulez, et qui passe par Duvivier, qui passe par Chabrol, etc. Et en fait,
Hitchcock aussi, on est dans une espèce d'enquête.
Il y a des plans très hitchcockiens dedans, et justement, c'est aussi la raison pour laquelle j'étais content content que Nicolas l'accepte, parce que non seulement c'est un grand cinéaste, mais c'est aussi un grand cinéphile. Et comme on voulait que ce soit aussi ce film une sorte de salutation à un cinéma qu'on aime et qu'on ne voyait plus beaucoup, il nous fallait quelqu'un qui ait la culture et l'envie de le faire. Alors ce sont des clins d'œil extrêmement discrets. Si on n'est pas cinéphile, on peut tout à fait regarder le film de manière plus au premier degré. Mais de temps en temps, on reconnaît, on se dit tiens, c'est curieux. Il y a un moment où Pablo va avec une pelle dans la forêt. Bon, j'en dis pas plus. Il n'empêche que ce plan est terriblement hitchcockien. C'est-à-dire, ce qui s'y passe, ça aurait tout à fait pu être dans un Hitchcock. Ouais.
Alors, tout à l'heure, évidemment, on a dit que c'était un thriller. Évidemment, on a parlé d'un drame. On n'a pas évoqué la tempête de 99 qui a également...
Vous avez dit une histoire d'amour, il y en a deux.
Hein. Oui.
Alors, c'est intéressant peut-être quand même de le lire comme ça. C'est qu'il y a une histoire d'amour au début, il y a une histoire d'amour à la fin. Et l'une est masquée, l'autre ne l'est pas. Et en fait, on ne sait pas laquelle est la plus importante, laquelle finalement va avoir la plus d'importance pour le drame que vont vivre les personnages et les spectateurs. C'est bien ce que j'ai dit, hein.
Ouais, c'est bien.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une histoire d'amour qui est le point de départ du drame et une autre histoire d'amour qui
Oui, pour deux raisons. D'abord parce que c'est vrai, puis ensuite parce que ça vous fait plaisir. Vous l'avez déjà dit deux fois. Et je sens que vous y tenez beaucoup. Non, mais, alors, Nagui, absolument, vous avez raison. Je sens que c'est important pour vous.
Si c'est faux, dites-le.
Non, c'est absolument juste. Non, c'est vrai. Il y a un dépit amoureux.
Je trouve totalement dingue de se dire, et d'ailleurs, c'est la discussion qu'on a avant de démarrer cette émission, de se dire que dans la vie d'un enfant de 10-12 ans, une déception amoureuse peut faire basculer sa vie dans un autre univers.
Oui, on a tous dans notre vie des moments où une décision, une microseconde va conditionner notre avenir et notre destinée. Le problème du personnage d'Antoine, c'est que ça arrive à un moment où il n'a pas la maturité pour gérer ça. Et donc ce qui va arriver va conditionner complètement sa vie. Hein, d'où le titre, 3 jours et une vie. Et c'était intéressant d'essayer de voir comment justement ça se déroule, ce moment où le destin arrive, à partir, vous avez raison, d'un dépit amoureux, d'un geste, de presque rien. Et d'un seul coup, tout se déroule. Et une fois que le collier est ouvert, toutes les perles défilent, naturellement.
Et on a presque la sensation de tomber dans un film de science-fiction, parce qu'il y a une forme d'irrationnel. À partir du moment où le dépit amoureux intervient, on a aussi un événement qu'on connaît tous, c'est la tempête de 99, qui intervient aussi dans le récit, la forêt qui va expliquer justement pas mal de choses.
C'est super bien filmé,
et qui donne la sensation que la faute originelle déclenche même les éléments.
Ouais, vous avez raison. Nicolas, quand il a lu le scénario, a pensé sur le coup que c'était un rêve. Il a dit, à la page suivante, vraisemblablement, le personnage va se réveiller, je vois bien le truc, quoi. Ouais. Et puis, d'un seul coup, c'est une vraie tempête. Et du coup, il l'a tourné exactement comme il l'avait lu. Alors, je crois que le spectateur a vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un cauchemar. Franchement, on n'est pas en train de spoiler beaucoup de choses parce que ça arrive au milieu du film. Ça rebat complètement.
On l'a malheureusement vécu
absolument.
Cette tempête de 99.
C'est vraiment très frappant. Il y a quelque chose qui est vraiment très beau dans le film. Je recommande aux gens qui vont le voir, c'est de voir de quelle manière, techniquement, c'est extraordinairement habile, la manière dont Nicolas va passer
du film à la télé aux infos.
Exactement. Ouais. Va passer du film, de la fiction, va passer aux images d'archives. C'est d'une élégance, d'une efficacité. C'est extraordinairement bien fait. C'est un très grand réalisateur.
Et la lumière est formidable aussi. Je n'ai pas le nom du Dirfot.
Manu Dacos.
Voilà.
Ouais. Bravo.
Formidable Pablo. Parce que il y a aussi cette lumière, ce halo de lumière. Il y a quelques gros plans où le visage sort comme ça d'un paysage où le réglage entre guillemets de la lumière et de la chroma le rend à nouveau réel. On était avec un visage totalement irréel.
Ce qui est épatant dans ce film, c'est j'ai l'impression que tout le monde est au meilleur de sa forme. Vous voyez ce que je veux dire, le cadreur, les acteurs, le metteur en scène. Franchement, j'ai l'impression ce film est un petit peu touché par la grâce parce que tout le monde est au mieux de sa forme.
Au top.
Ouais, vraiment au top. Même moi, je suis pas mauvais dedans.
C'est ce qu'on entend.
J'attendais que Pablo le dise, mais comme une.
C'est ce qu'on entend.
Le procureur.
Oui, je joue le proc.
Ah oui, le proc.
Mais ça vous a pas frappé.
Ça vous change les lunettes.
Non, j'ai même été déçu par cette scène.
C'est vrai qu'on en a parlé avant. Il y a un moment de flottement.
En fait, c'est une scène qui faisait 2h15, elle était terriblement coupée.
C'est un moment de flottement, mais qui donne ce côté humain, tu sais, où tu vois que c'est de la propos, mais c'est touchant.
Tu dis, c'est pas génial, c'est crédible.
Comment.
Franchement, je vous ai tendu la perche.
Évidemment. Merci, et merci. Vous savez que nous sommes des spécialistes de la perche. On est des preneurs de perche. Est-ce que ça a été facile pour vous de retrouver avec l'écriture cinématographique que vous maîtrisez bien maintenant, votre écriture dans le roman, en termes de tempo, en termes de comment gérer les silences, les images, est-ce que on se retrouve quand on est auteur? Souvent, c'était Philippe Labrou qui avait dit à ce micro, lorsqu'on adapte un roman, il y a toujours une trahison, même quand on l'a fait soi-même, cette adaptation.
Écoutez, je pense qu'il y a une trahison si on attend trop du cinéma. Mais si on attend du cinéma ce qu'il sait mieux faire que le roman, alors il n'y a pas de trahison. Il y a même une satisfaction. Il y a des solutions scénaristiques qui, je trouve, sont meilleures que dans le roman. Et c'était déjà le cas dans Au revoir là-haut. Albert avait trouvé des choses, et quand je les voyais sur scène ou quand je lisais le scénario, je disais, c'est bien, c'est dommage que j'ai pas eu cette idée-là quand je le faisais. C'était pas forcément, vous voyez, des révélations, mais il y a de temps en temps des choses qui sont plus justes.
Donc avec une même histoire, on peut faire deux œuvres.
Oui,
différentes.
Je crois qu'on peut faire deux œuvres. Et j'ai envie de dire, c'est mieux si les gens n'ont pas lu, s'ils vont voir le film, ils liront ou pas le livre après, mais c'est bien d'aller le voir sans a priori, sans esprit de comparaison, d'aller voir le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une œuvre à part entière.
En tout cas, c'est une réussite. Merci d'être venu à ce micro, Pierre Lemaitre, malgré tout ce que vous pensez de nous. Le film s'appelle « Trois jours »
En tout cas, vous avez raison de penser ça.
« Une vie, Tanguy Pastureau », ce qui régit évidemment ici autour de cette table dans la bande originale, c'est la confiance.
Oui, Nagui, bah, vous arrivez détendu à la radio, parce que vous savez que nous sommes des cadors. La dernière chronique moyenne, c'était en 2014, et encore, c'est quelqu'un qui avait vomi à cause d'une gastro, donc c'était drôle. Mais prenez Macron, lui est obligé d'avoir une appli sur smartphone pour fliquer ses ministres.
Quoi?
En même temps, ces gens ne nous valent pas.
Ok, bon, on en parle après votre midi. Original avec Léa Cadeau-Boudadi, Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour,
Tom
Maggie.
Villa,
bonjour.
Tanguy Pastureau,
bonjour.
Et nos invités Sandrine Bonnet et Pablo Poli. Soulagé sûrement que Philippe Lemaitre soit venu à ce micro raconter ce qu'il y avait dans le film. Comme ça, on sait ce qu'on a le droit de dire et pas le droit de dire. Philippe Lemaitre étant l'auteur.
Pierre Lemaitre.
Pierre, pardon.
Mais c'est bien Philippe aussi, c'est bien.
Étant l'auteur.
Philippe, il n'a pas aimé du tout.
Étant l'auteur de Trois jours et une vie, le roman, il l'a adapté. Et également, pour en faire un film avec Nicolas Boukrieff, on n'a pas eu le temps parce qu'on avait envie de parler de plein de choses avec lui, mais de lui demander quel était. Le choix, en tout cas, de la réalisation, on a bien compris, en tout cas, l'importance, ouais, justement, des références, de la passion, quand il a dit que c'était non seulement un bon cinéaste, mais c'était aussi un amoureux du cinéma, avec beaucoup de références, que ce soit dans les films noirs, les Hitchcock et autres, parce que c'est ça aussi, c'est un thriller, c'est un drame psychologique, ce sont des histoires d'amour, on l'a bien compris, avec deux temps, une période en 99, une autre 15 ans après, et tout ce qui peut se passer dans la vie de personne lorsque petit 1, un drame intervient, petit 2, lorsqu'il faut vivre avec ce drame et s'en sortir et grandir quand même et continuer d'avancer.
Ça va. Voilà. Bravo, formidable.
Je suis épuisé, je suis au bout du rouleau.
Petit coup de batterie.
Est-ce que Sandrine Bonner, le fait d'avoir l'auteur du roman et le scénariste sur le tournage change certaines choses, on discute avec lui, on va au catering avec lui, on se demande ce qui s'est passé dans sa tête pour l'écriture du roman.
Absolument. Et puis, ce qui est formidable de la part de Pierre, c'est que il n'est pas là à vérifier ce qu'on fait ou à voir si on trahit pas un peu les choses. Non, il était comme un gosse à regarder les scènes, à nous encourager.
C'est vrai que concernant... Il nous a dit pendant les infos, encourager les enfants, ouais, aussi qui jouaient, partager des moments avec les acteurs.
Ça. C'est vrai qu'il est charmant. On n'est pas ça derrière un auteur, parce que les auteurs, surtout quand on voit ce qu'il écrit, on pourrait imaginer un mec un peu sombre, un peu. Et en fait,
il est très joyeux.
Ouais, il est drôle, il est joyeux, mais il écrit des horreurs quand même.
Ouais, hein, mais bon,
il écrit des horreurs, ça
fait peur.
Et moi, j'avais un projet avec lui d'un de ses livres qui s'appelle Cadre Noir.
C'est génial.
Qui est formidable. Et puis du coup, le film s'est pas fait à ce moment-là, et c'était avec donc Dupontel et moi. Et puis, le film maintenant est repris par quelqu'un d'autre, avec d'autres acteurs. Mais avec Pierre, on avait envie de travailler ensemble.
C'est une histoire, oui. Apparemment, ouais, ça va continuer. Si vous en parlez, c'est que vous avez envie
d'y arriver. Ah, moi, j'aimerais bien.
Est-ce que Pablo, vous lui avez demandé d'où venait cette idée? Est-ce qu'il y avait quelque chose de vrai d'abord? C'était un fait divers? C'est quelque chose qui...
Ça fait un peu fait divers, ouais. Je ne l'ai pas demandé, je ne veux pas savoir d'où vient cette noirceur, ça ne me regarde pas du tout.
Est-ce que vous avez le sentiment dans votre propre vie que vous trouvez aujourd'hui des échos moins dramatiques, heureusement, que dans le film, mais que vous trouvez des échos de votre enfance? Est-ce qu'on... Parce que moi, c'est la question aussi que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous a marqué chacun à 10-12 ans et qui peut avoir une incidence sur nos vies aujourd'hui?
Il y a un écho qui, moi, me frappe beaucoup, c'est le rapport avec ma mère, qui garde certaines choses pour elle. Et elle le dira jamais à qui que ce soit parce que c'est une maman et elle protège son fils avant de se protéger elle-même. Il y a un peu de ça, ouais.
Dans les rapports, en tout cas, qu'il y a dans le film entre vous et votre maman, ça ne me regarde pas. Mais dans le film, il y a beaucoup de ça, des rapports entre la maman Sandrine Bonnaire et son fils, joué par ces deux acteurs que sont Jérémy Senez et Pablo Poli. Voici Tanguy Pastou. On n'entend pas trop parler en ce moment du président Macron.
Ben non, et c'est normal, parce que ça fait 2 ans et demi qu'il est élu, le petit haut. Et le rapport qu'on a au président, c'est le même qu'avec un conjoint. Au début, on s'emballe, ensuite on s'ennuie, et après, on s'en fout. Donc là, Macron pourrait bien faire des claquettes en slip à trompe, qu'on continuerait avec à nos occupations quotidiennes, comme ne pas écouter Zaz, faire l'amour, ou se mettre sur un terre à 12h10, parmi toutes ces choses qui donnent du plaisir. On ne le regarde plus. Avant, on le trouvait craquant avec son petit polo à quête, quand il faisait du biclou au touquet. Mais on est passé à autre chose. Si je le croisais là, je lui ferais le coup qu'on fait à chaque rupture. Je lui dirais, c'est pas toi, c'est moi. Toi, t'es super, change pas, bébé. Tu mérites mieux, je te souhaite d'être heureux. Le genre de truc qu'on dit tout en pensant, casse-toi, bolos. Tu transpires, t'as adoré les bronzes étroits. Et t'as la même tête que Daniel Morin. Ce qui serait plutôt sympa, oui, si tu n'étais pas une femme. Et donc, Macron, pendant qu'on ne le regarde plus, peut en profiter pour dire ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Il se déclare à la fois pro-business et écolo, dur et calinou, amoureux des animaux et pote avec les lobbies des chasseurs. Ces gens tellement d'écart que quand ils ont 3 palopas, il hurle « Je suis un sanglier » et se tire une balle dans le genou. Macron, ils sont 11 dans sa tête. Un jour, Deschamps va l'envoyer tout seul jouer l'Albanie. Quand un ami lui demande s'il veut connaître son horoscope, Macron répond « Bien sûr, je suis Capricorne, Cancer et Verseau. » Et donc, comme tous les gens peu stables psychologiquement, Loana, Eric Cantona, Ben Laden, Cyril Hanouna, Macron passe d'un état à l'autre en 2 heures. Il se blottit contre vous, l'instant d'après, vous attaque. En fait, c'est un chat. Je pense qu'il a une grande caisse au pied du frigo et Brigitte râle quand il fout le sable à l'extérieur du bac. Exemple, en juin, il avait quand même déclaré qu'il serait plus humain, hein, comme si ça se décrétait. Et hier, on apprenait qu'il disposait d'une appli de smartphone pour mettre sous pression ses ministres. C'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, seul mec à porter le nom d'une émotion en dehors du film Vice Versa de Disney. Hein, pour équilibrer, ils lui ont fait partager son bureau avec une certaine Noémie Joie, qui a mis l'appli. Et donc, Macron peut surveiller l'activité de ses ministres. Quand Jean-Yves Le Drian se met à bouger, le truc émet une alerte parce que c'est un comportement inhabituel de sa part. Le type est moins vivace qu'une belette clemcée. Macron peut aussi noter ses ministres, comme nous, un resto de crustacés à Arcachon, sauf qu'il ne juge pas les huîtres, mais Gérald Darmanin. Hein, pour le distinguer, Darmanin, c'est celui qui n'a pas de coquille. Et quand on appuie dessus, ça ne gicle le pain. Les témoignages. Alors, pourquoi cette appli ? Eh bien, parce que Macron est énervé. Il est tout colère, le petit bout, selon Jean-Michel Apathy de LCI, ex-Europe 1, ex-France Info, ex-RTL, ex-France 5, ex-Canal. Il n'y a que la chaîne Animaux qu'il n'a pas faite, mais ça va venir parce qu'il vient de prendre 2 perruches. Apathy dit que le 11 septembre, Macron a déclaré à ses ministres « Si vous ne changez pas, je vous change ». Phrase communément prononcée en EHPAD, mais rarement en Conseil des ministres. Il les trouve nuls, pas assez rapides. Donc management par la terreur, il les harcèle. La réforme des retraites, vous avez 8 heures pour la faire. La PMA pour toutes, plus vite. Demain, je veux que même Régine puisse dépoter 4 gosses. Allez. Il est à fond. C'est bip bip dans un monde de droupie.
Mais il faut dire qu'Emmanuel Macron entame l'acte 2 de son quinquennat.
Mais c'est vrai, le premier acte a été atroce, Nagui, parce que tout l'hiver, les gilets jaunes ont fait griller des merguez sur les ronds-points. Pour quelqu'un d'habitué aux mets les plus nobles, c'est une torture. C'est Alain Ducasse qu'on traînerait chez Quick. L'acte 2 doit donc être réussi. Or, ça commence mal. Richard Ferrand vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Patrick Balkany a déjà écrit « Bienvenue en ballon à la prison de la santé à son intention ». Et hier, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a admis que dans sa déclaration de patrimoine, elle avait oublié une maison et 2 apparts. Hein, cette dame, c'est la rencontre de Stéphane Plaza et d'Alzheimer. Hein, vous jouez au Monopoly avec elle, vous tombez 10 fois sur l'avenue de Breteuil alors qu'elle y a un hôtel, elle vous dit « Je sais pas ». Et le pire, c'est que celui qui l'a balancé, c'est Mélenchon. Hein, lui, c'est comme un berger allemand des douanes quand il approche du bus de tournée du groupe Sinsimilia, mais avec les maisons des ministres. Donc d'un côté, il y a Mélenchon qui se prend pour Sherlock Holmes, et de l'autre, Macron avec son appli harcèlement du haut travail. Imaginez la vie affreuse qu'ont les ministres. Il vaut mieux être un balai brosse dans des WC à la turque à l'arrière d'un resto Tex-Mex qu'un ministre en France. Chaque ministre a son pourcentage de réussite des réformes sur l'appli. Le meilleur, d'après BFM TV, c'est Blanquer, Jean Michemuche, avec 53% de réussite, c'est-à-dire juste la moyenne. Hein, les autres sont à 14%. L'appli est formelle, ce sont des bras cassés. Et derrière, Macron organise les sanctions. Bruno Le Maire, 20 coups de fouet. Christophe Castaner, 4 verres d'eau minérale non coupés à l'alcool de figue. Hein, parce qu'il est fou, Macron. D'après l'Express, au dernier Conseil des ministres, il aurait déclaré « Si dans 2 mois, les choses n'ont pas changé, vous allez sentir le souffle chaud de la lame sur sur la nuque. Wow. Hein, c'est le seul monsieur à faire face à Muriel Pénicaud et à s'exprimer comme Cersei Lannister dans Game of Thrones. Hein. Bref, on ne sait toujours pas si c'est l'Elysée qui rend ceux qui y habitent dingues ou s'ils avaient déjà un pète-casque en arrivant, mais il y a apparemment un problème avec l'édifice, donc rasons-le, foutons-le dans une yourte, ça va les faire redescendre.
Mais ça va pas. Dans
la bande originale, Mehdi, sur France Inter.
Parlons un tout petit peu culture. Et cette fois-ci, Sandrine Bonner et Pablo Poli, vous pouvez chercher la réponse si vous le souhaitez. Si je vous dis alerte rouge en Afrique noire.
Titre de OSS 117.3.
Exactement. Le nouveau OSS 117, ouais, t'as raison, c'est le troisième, c'est ça. Parce que OSS 117.3, ça devient un peu compliqué.
Alors, ça
au
veut dire qu'on avait posé la question, on avait fait des paris à ce micro.
Sur le titre.
Sur le continent.
Continent, ouais.
Oui, le continent.
Exact,
et
exact,
Toi, t'avais dit Thaïlande.
On se prend loin, hein.
Est-ce qu'une comédie vous attirerait, Sandrine Bonner, justement, à la OSS 117 ou,
Je suis fan de OSS 117. J'adore.
Mais on vous le propose pas ou vous refusez pour l'instant?
Non, on m'a pas proposé. Donc peut-être le quatrième.
On vous propose une comédie, vous plongez. Enfin, si elle est écrite, si elle a cet humour
on
un peu pincé.
On propose des comédies, bien sûr, on m'en a proposé. Après, ça dépend comment c'est écrit, ça dépend si ça me fait rire ou pas.
Mais en tout cas, une écriture comme ça, genre OSS 117, ça vaut.
Ouais, enfin c'est un ensemble. Hein. C'est c'est la mise en scène, c'est l'image, c'est le jeu.
Alors il y a toujours Jean Dujardin, mais ce n'est plus Michel Zanavicius qui réalise.
C'est Nicolas Bedos.
C'est Nicolas Bedos. Et vous aussi, Pablo Polim, vous
avez l'air tous les jours.
Carrément tous les jours.
Ah ouais, non, vraiment.
Si le fond en série, vous y
c'est
êtes.
C'est un humour qui me plaît beaucoup.
D'accord. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est la particularité de la série Baptiste, dont Chicky Cario est la vedette?
Elle est pas top.
Bonne vanne.
Il est mort.
Non.
Réalisé en temps réel, au téléphone, c'est technique?
Non, c'est pas technique, c'est.
Elle est évolutive.
La diffusion, la plateforme.
Elle est évolutive, non?
Non. C'est la télé pour laquelle elle est faite.
C'est la première série pour
Télé pour aveugles.
Non,
le truc de France Télévisions.
Non plus.
Slash.
Non.
Salto.
Non plus.
Voilà. Zen TV. Ouais.
Non, c'est pas français.
Ah.
BBC, c'est une
Amazon.
Sorte de co.
Non.
Bon, je crois
qu'on se donne un
qui a dit,
Apple TV.
Allez, là, elle a dit. Ok, très bien. J'ai pas entendu. T'as dit BBC.
BBC,
c'est
ouais.
Ça. C'est pour une télévision anglaise, britannique, qui fait aujourd'hui de Chicky Cario, donc une vedette de série télé en Angleterre. À 65 ans, il va incarner le rôle titre de Baptiste sur BBC One. Trop la classe. Une série née de la popularité outre-manche du personnage Julien Baptiste, qu'il incarnait déjà dans les deux saisons de The Missing, qui était passée sur France 3. Mais alors, jouer dans une série anglaise, produite par les Anglais sur la BBC, là, Pablo. C'est le top.
Si pour la vous. Série
non,
bien,
pour ouais. Vous, pour vous.
Si c'est bien, oui.
Et quel genre de série vous les regardez beaucoup ou pas?
Là, j'ai terminé Euphoria avec Zendaya qui est assez incroyable.
D'accord.
C'est vraiment dingue.
Sur OCS, d'accord.
Sur. Non, c'est HBO.
Ah ouais.
Et vous dévorez.
Mais ouais, pardon.
Il vit aux States. Et vous dévorez les séries? Vous êtes accro? Genre, quand vous commencez une saison, vous allez au bout?
Ouais, j'attends souvent qu'il y en ait 2-3 qui sortent, comme ça je peux me les faire en une semaine. Mais sinon, non, je regarde plus de films que de séries.
D'accord. Hugh Grant vient d'avouer qu'il avait envisagé de mettre sa carrière de comédien entre parenthèses, mais pour faire quoi?
Plombier.
Non.
Un truc de sport, non?
Non.
Écrit humanitaire?
Du carité.
Politique?
Social?
Exactement.
Politique, ouais. Il a pris position quand même assez forte.
Premier ministre.
Carrément.
Ouais, il veut faire carrière.
Comme dans Love Actually, rien.
C'est ça, comme dans Love Actually, exactement. L'acteur qui incarnait le rôle donc du Premier ministre dans le film a confié que l'idée de s'installer pour de vrai au 10 Downing Street lui avait effleuré l'esprit. L'engagement de votre côté, Sandrine Bonner, on le sait, vous avez des valeurs et c'est pour ça aussi que l'on vous aime.
Alors que Pablo, pas du tout.
mais en faire carrément son job, ça vous a traversé l'esprit?
Ah, pas du tout. Ah, mais moi, je suis totalement nulle en politique. Hein.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, oui.
Mais ministre de la culture, conseillère, tout ça.
Oh là là,
rien.
Non.
Et président d'association, ou là aussi,
non,
à défendre une valeur.
Délégué non. De classe
Non plus, rien. Okay.
Non, c'est trop compliqué.
Pablo,
on est déjà entouré de bras cassés, alors
Pablo,
on ne va pas en rajouter. Hein.
Sûr, partir dans la politique, non?
Certainement pas.
Ah, pourquoi?
Parce que ça me dégoûte plus qu'autre chose, et que moi j'aime faire des films.
Et est-ce que souvent on demande aux actrices et aux acteurs leur opinion politique ou de prendre position ou de signer des pétitions? J'imagine que ça vous arrive souvent aussi. Pour quel genre de cause le feriez-vous, Sandrine Bonner?
Bah, pour tout ce qui est injuste.
Il y a du boulot.
Il y a beaucoup de boulot, ouais.
On vous sollicite généralement pourquoi?
On vous sollicite.
Ou la dernière pour laquelle vous ayez signé? C'est les violences faites aux femmes, c'est la défense des migrants, il y a aussi des,
animaux, j'ai signé, tout à fait.
Suppression de la corrida, enfin, il y en a plein qui sont sortis là récemment.
Les migrants, oui, bien sûr. Ensuite, la violence faite aux femmes, évidemment. Après, je trouve qu'il y a tellement de comment dire... Ça part un peu dans tous les sens, là.
Les pétitions. Est-ce que justement, d'en signer une, deux, à la quatrième, on dit non, j'en ai déjà signé trois, ça veut plus rien dire. Est-ce qu'on se raréfie dans les prises de position et dans les signatures pour que sa parole soit encore plus écoutée?
En fait, il faut faire attention à l'effet de masse. Parce qu'il y a des idées qui sont belles au départ, mais qui ensuite. Pour peu qu'il y ait... Enfin là, je pense vraiment au mouvement féministe. Je trouve qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et je dis très souvent que je défends ou je soutiens certaines femmes.
Pablo, s'il y avait une valeur à défendre ou une pétition à signer en ce moment, vous feriez quoi?
Quelque chose autour de la planète, je pense, qui va quand même assez mal.
Carrément.
Mais après, effectivement, signer 2, 3, 4 pétitions... Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un seul et même sujet et faire ce qu'on peut faire pour un seul et même sujet et pas se disperser un peu partout et de dire juste j'ai signé ça, ça, ça et ça, je suis d'accord avec tout. Être juste d'accord avec ce qui va mal, c'est un peu facile, mais on peut diriger un petit peu notre jugement sur un sujet.
S'il y en a un qui signe énormément de chroniques et qui se disperse, c'est bien Daniel Morin.
Oh mon Dieu.
Appelle-moi Nagui.
Mon Dieu. 3 jours et 1 vie. Non mais la dureté de ce film, Sandrine. Dureté mais aussi âpreté, Pablo. Et ce sentiment d'angoisse qui vous étreint. C'est beau et insoutenable à la fois. Surtout en Belgique et autres terres maudites. Oh le malheur, ça a du bon pour faire de belles histoires. Et comme souvent, tout commence, tout se déclenche après une déception amoureuse. Oh, la déception amoureuse, ça peut vous flinguer, vous mettre un homme à terre, même quand on est un petit garçon. La déception peut vous ronger de l'intérieur, ça vous bouffe le cœur, ça gagne du terrain, ça finit par vous épuiser le système nerveux. Et là, c'est l'explosion, le craquage, et parfois ça finit en fait divers, comme dans le film. Moi aussi, ça m'est arrivé ce genre de situation. J'étais petit, à l'époque, je devais avoir 6-7 ans. Oui, j'avais 6-7 ans et je vivais encore chez ma mère. Et comme le veut la tradition, dans les villages reclus du sud-ouest, on a voulu me marier de force avec la fille du curé. Elle s'appelait Angélique et elle était laide comme le diable. Sûrement une punition divine infligée à l'ecclésiastique étalon. Sa laideur ne me dérangeait pas. Non, je suis habitué à la malédiction esthétique. Dans ma famille, on est plus proche du physique de la gargouille moyenâgeuse que de celui de la statue grecque. Je suis la seule aberration familiale. Dotée d'une beauté incandescente, je jure un peu avec le reste de mes profs. Le jour de la noce, j'ai une révélation. Comme la moitié du village, Angélique était atteinte de la lèpre. Et quand j'ai passé la bague à son doigt, ce dernier m'est resté dans la main. J'ai vu un signe du ciel. Je me suis enfui. J'ai erré dans les bois, seul, effrayé, me nourrissant de châtaignes et de glands, ne trouvant protéines qu'en grignotant le doigt tombé d'Angélique que j'avais conservé en souvenir. Accablé par la faim, le froid et la peur, je sentais la mort rôder autour de moi. Et puis c'est là que j'ai eu la vision qui me sauva. Oh, la vision divine que voilà. Elle courait nue dans la forêt, sautant de bosquets entaillis. Oh, la belle sauvageonne! Une créature aussi belle que primitive, je l'ai suivie jusqu'à sa tanière. Elle vivait dans une grotte. Pour l'amadouer, je lui jetais des petits animaux morts qu'elle dévorait avec bonheur. Je me rapprochais de plus en plus, et jusqu'au jour où je me suis tint suffisamment près d'elle pour lui offrir un cadeau. Une pierre que j'avais trouvée dans la rivière, puis que j'avais taillée en forme de caillou. Touchée par le geste, elle partagea avec moi son déjeuner, un écureuil fraîchement déchiqueté. Bien décidé à lui faire ma proposition matrimoniale, je me présentais le lendemain avec comme présent mon bien le plus cher, une photo de moi avec Patrick Balkany. Oui, petit, j'avais déjà bon goût. J'étais à deux doigts de faire ma demande quand la vision d'horreur vint crever mes yeux et crucifier mon âme à la fois. Devant sa caverne, et sans la moindre pudeur, elle était en train de copuler avec un sanglier albinos près de mes Jean-Michel. Oh. Mon cœur s'effrita aussitôt, la colère montait en moi sans jamais redescendre. J'étais bouffi de haine, cramoisi de rage. C'est là que tout a commencé, pour m'apaiser, il fallait que je tue. Comme j'étais trop petit pour tuer des adultes, je suis devenu serial killer de taupes et de marmottes. Toute la région était à mes trousses, et puis, j'ai rencontré Leïla. Et maintenant tout va mieux. Enfin, ça va mieux. Tant que je ne croise pas de taupe, ça va. À demain.
Merci,
Daniel. France Inter, la bande originale. avec Nagui.
Sandy Bonner, qu'aimeriez-vous entendre dire par une personne qui sort de la projection de Trois jours et une vie, ce film qui est, lui, au cinéma demain? Vous aimeriez qu'il dise quoi?
Eh bien, j'en sais rien. Enfin, que c'est un bon film, quoi. C'est con comme réponse, mais. Bah, je sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, Pablo, vous
diriez ça sûrement.
Non, mais de toute façon, j'allais vous la poser.
Que c'est un style de film qu'on voit de moins en moins et que c'est bien qu'on fasse ça.
Agnès?
Oui?
Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission?
Que j'aimerais bien démarrer le tissu aérien, comme Sandrine
Bonner.
D'accord.
Leïla?
Ah, bien.
Que moi, j'irais bien manger un plat en sauce avec Pierre Lemaître et que j'invite tout le monde à aller voir ce film vraiment.
Tanguy Passureau?
Que moi, j'aimerais bien être invité avec Leïla et Pierre Lemaître à manger un plat en sauce. Parce que je suis jamais invité,
quel
moi. Nulle part.
T'es un fainéant. T'avais une demi-heure pour trouver un truc. Tom Villa.
Qu'on a réussi à faire 1h30 de slalom géant et c'est un record dans l'émission.
Ouais, ça fait mal au tendon. Daniel Morin?
Bah, vu le thème du film, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir l'apprécier, mais finalement, je l'ai eu et plusieurs fois. Ce que je cherchais, c'est-à-dire le sourire de Sandrine Bonner à l'écran. Et ça illumine toute la salle.
Ouais, et puis non, c'est un très, 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 très bon film et un très bon. Il est beau et il est bon, ce film. Allez le voir, c'est vraiment le film. C'est vraiment le film à voir. Trois jours et une vie cette semaine, en tout cas, signé Nicolas Boukrieff, avec Sandy Bonner et Pablo Poli, qui étaient nos invités, ainsi que Pierre Lemaître, qui est passé tout à l'heure. Merci mille fois à tous les deux et tous les trois, Pierre Lemaître, d'être passé demain. Nous recevons Cécile Siama, Céline
Siama
et Noémie Merlan. Exactement. Tout de suite, d'ailleurs, c'est Patrick Bertrand, c'est le mec qui veut. Philippe Bertrand pour les carnets de campagne, pardon Bernard. Pour le retard.
Merci Jean-Paul Nagui. À demain. Oui.